Ben, si tu veux, c'est un petit peu aussi le même problème. Enfin, je m'ennuie de parler de moi, ben, puisque tu vas me cerner, tu vas me piéger de toute façon.
L'instant 2.
L'instant 2.
L'instant 2. Vous allez rencontrer quelqu'un.
On m'a souvent dit, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Je crois pas à ça. Je crois qu'il faut avoir une loi, il faut être sa vérité. Il faut se battre proprement, loyalement. Mais il faut savoir que chaque jour est un combat. Le lendemain, il faut tout refaire. Il faut aller chercher. C'est merveilleux. Aller chercher les gens qui ne veulent pas, qui se refusent, par pudeur. Comme ça, lentement. On ne peut pas tricher.
Un invité. Partez à sa rencontre. Prenez le temps de partager. L'instant 2
sur Radio Grenouille.
C'est important d'avoir un bon médecin. Cette phrase n'a pas d'âge, on l'a toujours un peu entendue. Elle résonne dans l'oreille, portée par la voix d'une tante, d'un grand-père, d'une amie, soit. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un bon médecin? À l'heure où l'hôpital public semble se noyer dans les méandres du tiers payant, de la santé comme marchandise, des coupes budgétaires où le patient deviendrait client sans même avoir demandé l'addition, la question de l'humanité n'est pas forcément à côté de la plaque. Alors un bon médecin, c'est peut-être tout simplement comme un bon ami. Un vrai, un être généreux au cœur profond comme une mine d'or qui peut et doit vous dire la vérité en face, qu'elle soit fatale ou sublime. Une seule pensée le guide, votre bien-être même quand vous êtes au plus mal. Alors il joue de douceur dans les mots, les regards, les silences et les gestes. Il convoque son empathie pour se mettre l'espace d'un instant dans vos baskets pas toujours tranquilles. Il vous apprivoise quand vous avez peur de souffrir. Il vous écoute quand vous voilà au fond du trou, au bord du gouffre, ou amoureux du premier jour, inquiet des palpitations bien intenses et rapides que fait votre cœur depuis le coup de foudre. À la fin de la consultation, on espère qu'il nous dira « On se revoit l'année prochaine si tout va bien ». Il est rare d'en croiser sur sa route un bon. Mon invité a croisé la mienne un matin d'été. C'est un bon médecin, alors ça doit être un bon ami si la logique de l'humanité est sans faille. Ses yeux sont d'une bonté sans égale et quand il ouvre la bouche, ce n'est ni pour prescrire des pilules lobotomisées, ni pour se targuer de la ribambelle de diplômes et de spécialités qu'il traîne depuis le bout du monde et cache parfois derrière lui par cette pudeur touchante qui révèle les perles de culture. Non, quand il dit « Ah !» C'est toute une partie de la Méditerranée, du Liban, du Sénégal, qui inonde de soleil l'amorosité d'une époque. La sienne, qu'il remet sans cesse en question, pétillement au coin des yeux, et sourire qui rassure. La plus belle générosité envers l'avenir, c'est de tout donner au présent, sauf peut-être sa santé, soyons raisonnables. La nôtre, je vous propose de la mettre entre ses mains et d'en parler. Faisons confiance dans cet océan de méfiance. Voici un îlot de douce certitude. Stéthoscope et blouse impeccable, un corps sain dans un esprit presque sain, laissant juste assez de failles pour faire passer la folie créative. Bistouri authentique enclenché, on décortique en finette l'être, l'avoir, le pourquoi du comment, d'une vocation accomplie contre vents, frontières et marées, le tout dans les règles de l'art, celle du grand Hippocrate. Les hypocrites, eux, direction la salle d'attente, ici pas de pilule bleue, d'esbrouf ou de placebo, on utilise la parole homéopathique et cathartique, allongez-vous, dites 88.8 et non 33, car oui, vous êtes dans l'instant 2 sur Radio Grenouille et même hypochondriaque, vous êtes en toute sécurité.
Un moment s'il vous plaît.
Bonjour Ali Hamdam.
Bonjour Mélanie.
Ça va?
Ça va très bien.
J'adore quand on demande à un docteur, comment ça va aujourd'hui docteur?
Ben écoutez, je suis comme tout le monde, ça peut aller comme ça peut ne pas aller.
Vous êtes comme tout le monde, Ali, on parle beaucoup de frontières en ce moment. Vous avez quand même choisi de jouer avec celle de la vie et de la mort. C'est quand même une sacrée responsabilité, non?
Ben écoutez, je suis donc médecin, comme vous le savez. Et mon parcours est un peu atypique. Je suis né au Sénégal, un 17 décembre 1953. J'ai parcouru donc des études de lycée, de collège, et puis j'ai passé mon baccalauréat en France, à Toulouse, et puis je me suis lancé, dans la médecine, poussé par un oncle qui m'a permis de m'aider dans mes études lors de ma jeunesse.
Qu'est-ce que c'est qu'un bon médecin alors, Ali?
Alors, un bon médecin est d'abord un médecin compétent qui prodigue des soins là où il faut, quand il faut, par tous les lieux et par tous les temps. Moi, je pense que c'est ma définition.
Ouais, c'est tout.
Mais je suis aussi, bien sûr, je suis président d'une association médicale nommée Samben, Sénégal Action Médicale Bénévole, le pays dans lequel je suis né. Et donc, j'ai décidé, il y a une dizaine d'années, de pouvoir apporter mes compétences à la population indigènes qui n'ont pas les moyens de pouvoir se soigner. Grâce aussi à tous mes amis qui maintenant qui m'entourent, on est plus de 200 médecins, infirmières et logisticiens qui parcourront donc les cieux du Sénégal et de pouvoir donc aider dans la mesure du possible la population sénégalaise.
On va en parler de tout ça, de cette association bien sûr, mais vous Ali, la vocation, parce qu'on parlait de médecine, vous êtes libanais, hein ?
Alors, je suis, effectivement.
Et comment elle vous est venue, cette vocation-là ? Parce que ça a été un parcours du combattant pour y arriver.
Alors, oui et non. Oui, dans la mesure où donc, je suis né au Sénégal. Mon père est un immigré qui, à l'âge de 15 ans, mon arrière-grand-père était coiffeur. Mon grand-père était coiffeur. Et un beau jour, mon grand-père demande à mon père, qui avait 15 ans, il lui a remis un baluchon dans lequel il y avait tous les outils du barbier, du coiffeur, c'est-à-dire le rasoir, le blaireau, etc. Et lui demande de prendre un bateau. En 1939, ce bateau, il l'a pris. Normalement, il devait se diriger vers l'Argentine, parce que c'était sa destination
depuis
finale.
Depuis le Liban,
depuis Beyrouth, absolument. Et donc, ce bateau a fait escale au Sénégal. Mon père, à l'âge de 19 ans, descend et se rend compte qu'il n'était pas en Argentine. Et finalement, il s'y est installé 3-4 jours, jusqu'au jour où, à l'époque, le Sénégal faisait partie de l'Empire colonial français. Et un général des forces armées françaises, un jour, survient et lui dit « Jeune homme, qu'est-ce que vous faites avec votre baluchon ?»
Ouais.
Mon père ne savait ni parler le français. Il lui montre donc le baluchon et lui demande donc de pouvoir servir les 5000 soldats français qui étaient donc résidents au Sénégal, à Dakar. Et mon père restait 50 ans à couper les cheveux.
est-ce que vous les coupez en quatre, vous, les cheveux, en tant que médecin ?
Non, on ne les coupe pas en quatre, mais on essaye quand même de leur apporter, au contraire, un soutien.
Ouais.
Un soutien souvent moral, d'ailleurs, parce que les gens arrivent dans des situations un peu fébriles, là, le plus souvent. Et je voudrais juste préciser que je suis médecin cardiologue, donc je ne m'occupe pas des affaires de cœur, c'est pas tellement mon...
Quoique.
Mais il arrive parfois aussi, il y a des gens en détresse, effectivement, ouais. On peut prendre en charge. Donc je soigne les maladies cardiaques.
D'accord.
Voilà.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.
Le Sénégal, on en parle là, c'est un fil comme ça qui vous suit,
oui.
Qui vous a suivi, et vous avez donc monté cette association, on peut le dire, humanitaire.
Hein, humanitaire, Ali. Oui.
Pourquoi au Sénégal ? Qu'est-ce qui vous a donné envie, hormis cette histoire de famille que vous venez de nous raconter ?
Alors, le Sénégal, donc, c'est mon pays de naissance, c'est mon pays adoptif. À l'époque, on avait des nounous pendant mon adolescence, mon enfance et mon adolescence. C'est elle qui me mettait le cartable sur le dos. elle avait un fils qui s'appelait Sambel, avec L majuscule, d'où la création de mon association Samben, à une syllabe près, Sénégal Action Médicale Bénévole.
C'était qui ce petit
garçon ? Alors Sambel, c'est un petit garçon de 14 ans qui est décédé à l'âge de 15 ans, j'étais avec lui, qui est en fait mon demi-frère adoptif, on va dire ça pour faire court, et donc qui a fait une mort subite à l'âge de 15 ans. Et bien plus tard, bien sûr, quand je me suis retrouvé en France et j'ai suivi mon parcours médical à Marseille, donc j'ai pu créer cette association Samben,
un hommage
à Sambel, qui est effectivement enterré à Joual, à 80 km de Dakar.
Et à 15 ans, vous vous êtes dit à ce moment-là, faut que je fasse quelque chose pour garder les gens que j'aime ou les gens bien en vie ?
Non, honnêtement, non. J'ai continué mon parcours. Et arrivé en terminale au lycée, j'ai demandé à mon père de pouvoir aller continuer en France. Mmh. À l'époque, c'était difficile, il y avait un avion par mois et les billets n'étaient pas donnés. Mon père n'en avait pas les moyens et il m'a demandé qu'il n'était pas question d'aller en France, que le salon de coiffure qu'il tenait m'était destiné.
Mmh.
Finalement, grâce à un oncle qui était à Toulouse et qui m'a dit « Écoute, je vais t'héberger pendant un an, tu feras tes études en France. » Et comme ça, je me suis retrouvé à Toulouse et j'ai passé mon bac candidat libre. Et puis, j'ai pu réussir mon baccalauréat.
les rencontres dans la vie qui changent un peu l'existence. On va en parler aussi. Je vais vous faire rencontrer Ali Hamdam dans l'instant 2. Camille Rosa, qui a déjà été reçue ici, habituée des projets cinématographiques ou autres, ayant pour lien dans ses projets l'échange, le vivre ensemble, la rencontre, le comment, le pourquoi et le comment peut-on arriver à essayer de cohabiter de la meilleure manière. Elle a réalisé un documentaire sur Haïti, l'humanitaire et le développement local. Elle n'y est pas étrangère, Camille. Et deux termes qui, parfois, deux pratiques sont souvent mises en opposition, hein, l'humanitaire, le développement local, parfois décrié comme de l'ingérence. On va en discuter ensemble si vous le voulez bien. Voici d'abord son avis sur la question. C'était à Paris, quai de la Seine, au son d'une partie de pétanque.
Je sais pas, je me verrais pas arriver avec mes propres idées sur comment on fait les choses, les mettre en place dans un pays et dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, tu vois. C'est tout. Mais c'est l'humanitaire, c'est pas que ça, tu vois.
Quoi?
C'est des gens qui avaient une vision humaniste des choses, qui se disent que, je sais pas, il y a trop d'inégalités dans le monde, qui peuvent faire quelque chose pour aider les gens, mais il y a une vision qu'on n'a plus envie de défendre, tu vois. C'est porteur d'un idéal un peu paternaliste, mais c'est peut-être le sens qu'a pris le mot. Je sais pas si c'est le rôle de pays tiers de s'occuper du développement des autres. Après, dans un contexte où on abolirait les frontières, c'est encore autre chose, quoi. Je sais pas, tu vois, je pense qu'il y a des ressources humaines à utiliser partout, en fait. Et que c'est pas en amenant de la ressource humaine qu'on aidera un pays dit en développement ou dit du Sud.
Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que l'humanitaire peut être un peu, voilà, du... Parfois on le dit, hein, du néocolonialisme, Ali Hamdam?
Oui, Mélanie, mais bon, en partie, ça peut être ça, effectivement. Et dans notre... En tout cas, en ce qui nous concerne, notre association, c'est une association qui est constituée des professionnels de la santé, tous engagés sur la base des valeurs de solidarité et de générosité, avec pour objectif principal l'accès aux soins aux populations les plus démunies. Ça, c'est
qu'elles
notre...
soient ici ou ailleurs.
Qu'elles soient ici ou ailleurs,
on
bien
est
entendu.
D'accord, hein, là, au coin de la porte
absolument,
ou à des milliers de kilomètres.
C'est évident, oui, absolument.
On va continuer juste à écouter un extrait de l'interview de Camille parce que on s'est demandé, finalement, elle parle des populations locales aussi à intégrer dans ses projets. On s'est demandé, c'est quoi la solution? Je lui ai dit, est-ce que la solution, c'est le développement local?
Des gens qui sont dans un endroit, qui décident de se mobiliser pour le développement de leur propre... Mais ça existe en France, je veux dire, ça existe en France dans des quartiers, ça existe en France dans des villes, c'est... comment on appelle ça? De la démocratie participative. Voilà, c'est ça. Et du coup, dans le cadre des projets de développement, comme par exemple à Haïti ou dans d'autres pays, c'est juste associer les populations locales aux décisions qui sont prises pour elles. C'est de la démocratie, quoi, c'est le principe. Redonner de la cohérence, en fait, aux institutions locales. Enfin, les institutions locales à Haïti, elles ont été dépossédées. C'est juste, est-ce que tu le fais en te disant « je le fais pour pas qu'on m'enquiquine » ou « je le fais parce que j'ai vraiment envie de le faire et j'ai vraiment envie de savoir ce que les gens veulent ». Et voilà, c'est ça, en fait. C'est ça, toute la différence. C'est peut-être que... Le truc, c'est ça. C'est peut-être que ton projet, si tu l'installes en humanitaire et que tu arrives avec de l'argent et une idée à mettre en place sur un territoire... Si tu trouves trois partenaires à qui tu vas filer 3 dollars pour t'aider à, je sais pas, construire une route ou voilà, tu vas le mettre en place ton projet ou ton dispensaire ou ton école ou et c'est très louable. Enfin, je veux dire, tu peux pas juste critiquer les gens et leur dire vous faites quelque chose, c'est pas bien, quoi. C'est juste penser à ce que tu fais et pourquoi tu le fais et le sens que ça apporte. Ça veut dire que la structure que tu vas mettre en place, l'équipement que tu vas mettre en place, il va bouleverser l'équilibre du territoire. Donc te dire que si tu associes les gens à l'origine, les gens, ils vont adhérer à cet équipement, ils vont considérer qu'ils l'ont choisi, ils vont comprendre pourquoi il est là, et finalement c'est comme si c'était eux qui avaient décidé qu'il soit là. Et peut-être que même ton équipement, il va plus être le même, ça va plus être une école, ça va être je sais pas, un centre social, ça va plus être une route, ça va être un pont. Voilà, c'est même pas venir avec ton projet, c'est juste dire en fait nous on a juste la compétence de vous proposer de vous réunir pour discuter de ce qui vous ferait du bien.
Camille Rosa, qui a participé aussi à cette émission et qui a donné son point de vue, là on y est, Ali Hamdam,
oui,
dans ce que vous faites avec cette association Sambène au Sénégal. On y est, associer les populations locales pour leur faire du bien.
Alors, l'association, d'abord il faut jeter les principes. L'association à laquelle j'appartiens est sensible aux inégalités de chance qui compromettent les principes du droit à la santé pour tous et qui rendent plus difficile l'accès aux soins aux populations les plus vulnérables. Mmh. À partir de ce principe, nous travaillons avec un programme qui est élaboré par le gouvernement sénégalais. Nous travaillons conjointement avec nos amis sénégalais. Mmh. Nous faisons ni plus ni moins. On se met donc derrière des principes élaborés par le gouvernement sénégalais, en termes de santé, je parle, hein, bien entendu. Nous apportons nos compétences, mais eux aussi, effectivement, en retour, nous apprennent plein de choses.
Il y a un échange là, c'est de la transmission.
C'est de la transmission, pas simplement au niveau en matière de santé publique, mais surtout en matière de sociabilité. Et ça, c'est l'Afrique a beaucoup de choses à donner pour l'Europe, à montrer aux Européens que si leur pauvreté existe réellement, ils sont quelque part riches grâce à leur pauvreté.
Ouais, elle n'est pas celle du cœur.
Celle du cœur
n'est pas pauvre, elle est riche.
Et de la raison.
Et plus de 15 000 enfants et adultes ont été pris en charge, hein, je le rappelle, par cette association depuis sa création
plus
en 2007.
Plus de 25 000.
Ah oui, ça a monté encore. Mais dis donc, votre site n'est pas actualisé, alors.
Peut-être qu'il n'est pas actualisé, effectivement. Mais on est plus de 25 000. 6 enfants ont été opérés.
Bien quand les chiffres augmentent comme ça.
Oui, on ne travaille pas pour les chiffres, mais on travaille surtout pour le nombre
Exactement.
De gens à soigner.
Exactement. Ali, on va faire une pause musicale et c'est la vôtre. Vous avez choisi, et c'est le principe de l'instant 2, de nous amener plusieurs morceaux de musique. Le premier, justement, il a quand même des liens avec l'Afrique et le Sénégal. C'est lequel et pourquoi ?
Alors, Africainement Vôtre.
Oui, enchanté.
Voilà. Par le groupe Système, Magic System. Et pourquoi Africainement Vôtre ? Parce que je m'estime... en partie sénégalais à plus de 1000%.
Ça fait beaucoup,
effectivement, ça fait beaucoup.
Ok, et si on fait le ratio, libanais à combien de pourcents ?
Alors à 1000%,
d'accord.
Et français à 1000%.
Waouh, ça fait donc 3000%.
Au-delà de ces trois nationalités, c'est l'universalité des chances qu'il faut donner à toutes les populations.
On continue à parler avec vous de ces 3000%, avec monsieur 3000 volts, alors on va vous appeler comme ça, Ali Hamdam, juste après votre choix musical dans l'instant 2, Africainement Vôtre, enchanté, restez à l'écoute, c'est Magic System qui débarque.
ça change pas.
Ah ouais.
Ah, Chonky avec Red One. Est-ce que ça marche?
Ça va pas.
L'instant 2,
l'instant 2.
Prenez le temps de partager sur Radio Grenouille.
Avec Aliam Dam, notre invité du jour, monsieur 3000 volts, on l'a découvert médecin, cardiologue, cardiologue du sport aussi, il faut le rappeler, hein, je le dis pour vous, Ali, plusieurs casquettes, Libanais, Marseillais, Sénégalais, dites donc, ça fait du monde là-haut, non, Ali ? Il y a du monde dans votre tête ?
Oui, il y a du monde.
Pour un médecin,
mais bon, c'est la chance d'avoir une profession libérale et de pouvoir déterminer son option de vie et son orientation de manière à pouvoir faire le maximum possible, quoi.
Bon, pourquoi vous avez choisi cette chanson, Ali? Magic System, on en a parlé, le Sénégal, vous l'avez au cœur.
Alors, Magic System est un groupe ivoirien qui a chanté au Sénégal, et pas n'importe où au Sénégal, à Gorée, le lieu de transport d'esclaves à la fin du 19e siècle. Tous les Africains débarqués à Gorée, c'est l'île des esclaves. Et donc, eux, ces esclaves étaient donc expédiés aux États-Unis, du côté de la Nouvelle-Orléans. Mmh. Ils débarquaient là-bas et c'est un repère historique que ce groupe a voulu rendre hommage aux esclaves sénégalais, quoi. Sénégalais et tirailleurs sénégalais, hein, qui sont devenus des tirailleurs sénégalais par la suite.
Pourquoi ça vous touche particulièrement, Ali ?
C'est plutôt un côté affectif que je voulais rendre hommage à Magic System, quoi.
Juste ça, en fait, la musique, parfois. Est-ce que la musique soigne ? Est-ce que vous soignez en musique, vous qui êtes docteur ?
Absolument, puisque dans notre association, nous avons effectivement des musiques locales.
Au Sénégal. C'est-à-dire que vous passez une musique et ça peut soigner des gens ?
Absolument.
C'est magique comme ça ? Comment ça marche, docteur ?
Alors, ça s'appelle la musicothérapie. Ce n'est pas quelque chose c'est en cours, d'ailleurs, d'élaboration, de réflexion. Et la musicothérapie permet à nos missionnaires français qui exercent sur le terrain de pouvoir travailler dans de très bonnes conditions et adapter au climat. Adapter au climat, des chansons locales qui permettent à nos amis de pouvoir travailler dans les meilleures conditions.
C'est fou, ça.
Je peux vous en citer pas mal de chanteurs.
Vas-y.
Ismaël Lo, le groupe Baobab en Afrique. Donc, on est dans des conditions optimales de travail grâce au pays qui nous accueille et qui nous ouvre le bras, quoi.
Quelle est la musique que vous écoutez qui vous fait du bien, vous, Ali, quand vous travaillez ?
Alors, la musique, moi, j'aime bien Ismaël Lo.
Ouais.
Ismaël Lo est un chanteur très atypique au Sénégal. Il chante un petit peu la pauvreté, l'enfance, le devenir de son pays. Et avec lui, c'est toute l'Afrique qui se lève et qui chante derrière lui.
Mmh. On va continuer, tiens, à poser des questions comme ça. Une interview mitraillette pour vous, Aliam Dam, invité de l'instant 2, monsieur 3000 volts. On va voir si c'est bien branché tout ça.
Si vous étiez...
Si vous étiez...
Si vous étiez...
Si vous étiez...
Ali Hamdam, si vous étiez un médecin au cinéma, plutôt Dr. Quinn ou George Clooney ? Ne réfléchissez pas trop. C'est le principe de l'interview mitraillette.
C'est Dr. Quinn.
C'est vrai, femme médecin alors ?
Femme médecin, oui.
Pourquoi ?
Eh bien, tout simplement parce que je m'adapte un petit peu à l'être humain qui est devant moi et je peux effectivement répondre aux plaintes que le patient sollicite ou expose.
Comment vous faites pour prendre autant d'empathie ?
Mais il faut dire aussi qu'il y a aussi un peu le temps qui fait que c'est pas tellement les études, mais comme on dit, l'école de la vie se fait avec le temps. Et effectivement, il y a des gens qui viennent pour des plaintes bien particulières, mais au-delà de ces plaintes, il y a tout un environnement. On a derrière ces plaintes réelles d'autres problèmes à régler.
Si vous étiez le regard qui vous a le plus marqué dans votre vie,
eh bien, c'est celui de ma mère. Qui est une dame qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé dans sa vie. Et à l'époque, c'est déjà très difficile dans nos temps. Les femmes des pays du tiers-monde ont déjà du mal à travailler. Ma mère était peut-être l'une des pionnières qui a pris donc le fil et qui était une couturière. Ma mère était une couturière.
Libanaise aussi.
Libanaise. Et qui a participé au travail de la famille, à l'apport du développement de notre noyau familial. Mon père était coiffeur, ma mère était couturière.
C'est une figure, votre maman ?
Jusqu'à présent, ça reste une grande figure.
Si vous étiez une épice, Ali Hamdan ?
Eh ben, j'aurais peut-être choisi, alors je ne sais pas si c'est une épice, mais le piment.
Ah.
Le piment, c'est typiquement africain. Et pour ceux qui parlent beaucoup et qui n'agissent pas, on leur mettait à l'époque du piment dans la bouche.
Ça marche ?
Oh, ça marche quelques temps, mais certains sont quand même assez...
Résistants. Mais pas toujours les meilleurs, d'ailleurs. Un plat à manger et à partager quand on a une grande nouvelle à annoncer au repas.
Alors,
qui n'est pas toujours chouette, d'ailleurs. Une grande nouvelle, voilà, qui va plomber l'atmosphère, comme ça.
Alors, je dirais... Le tchaboudjen, le riz au poisson.
Ah ouais, c'est quoi, c'est libanais ?
Non, c'est sénégalais.
Dites donc, je me perds avec vos histoires de multi-identité. Alors, qu'est-ce que c'est ce plat ?
C'est le plat traditionnel et le plat de base au Sénégal, le riz et le poisson, qui s'appelle le tchof. Le poisson, le tchof est un mérou, le mérou sénégalais, et qui a la particularité de nourrir toute une famille autour d'un plat. Et tout ça, c'est agrémenté, effectivement, des sauces piquantes. Voilà.
Ouais, d'accord. Si vous étiez une décision qui changerait le monde de la médecine, comme ça, aujourd'hui.
Alors, je pense que la santé, effectivement, est promoteur d'un développement, du développement d'un pays. Sans la santé, la population de ce pays ne peut avancer sur le plan économique. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un des grands économistes qui le disent.
Là, c'est vous qui le dites, en tout cas.
Voilà, c'est moi qui le dis, effectivement. Et la France en est d'ailleurs l'exemple.
Mais vous répondez pas à ma question, Ali. Vous êtes un peu un homme politique, là.
Oui, non, c'est un homme social qui parle.
Ah ouais. Vous êtes médecin, d'abord.
Je suis médecin.
Moi, je vous dis, voilà, si j'ai, comme ça, je vous donne le pouvoir d'un médicament, d'une décision qui peut changer la face de la médecine et de la santé. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez des pouvoirs magiques ?
Le pouvoir magique, on ne peut pas l'avoir, parce qu'il faut s'adapter en fonction de l'évolution de la médecine.
Et moi, je vous le donne là. Là, il est là, le pouvoir magique, je vous le donne. Et je vous dis, vous pouvez guérir une maladie, c'est laquelle ? Ou vous pouvez prendre une décision qui changerait le monde de la médecine ?
Alors,
ce serait la
maladie, s'il faut soigner une maladie, c'est
pour
bien
vous.
Le paludisme.
Ah.
Les gens en parlent peu,
mais
c'est la première cause de mortalité infantile. Et chez les femmes aussi, en Afrique noire et dans tous les pays où il sévit cette maladie qu'on appelle le paludisme. C'est la première chose, absolument.
Ben voilà, on y est.
Bon.
Au Liban, on dit merci et bonjour.
Chokran.
Ouais. On le dit aussi en français, non ? Merci.
Merci, on dit merci en français.
Entre merci et bonjour, vous préférez lequel de mots, Ali Hamdan ?
Bonjour.
Pourquoi ?
Parce que le merci, il y a une histoire de relation... De dualité entre la personne qui donne et celle qui reçoit. Vous voyez, c'est pas de la médecine, mais c'est plutôt du comportement naturel. Et je préfère dire bonjour, c'est plus respectueux que de dire merci.
D'accord. Merci alors.
Bonjour.
On va remercier quelqu'un qui fait partie de l'aventure de l'Instant 2, Lauriane Toulemont. Et c'est le moment de la chronique décalée, Ali Hamdan, dans l'Instant 2, pour parler un petit peu, de manière un petit peu plus pimentée et épicée, des sujets que l'on vient d'aborder. Lauriane Toulemont, c'est à vous.
Décalée.
Chronique.
Décalée.
Chronique.
Décalée.
Chronique.
Décalée.
À l'heure où l'Europe se pare de fausses bonnes actions pour les réfugiés, où le climat, le cancer de la terreur et de l'impunité s'étend encore de l'autre côté de la Méditerranée, il vient cette fois d'un pays qui n'en finit pas de saigner, l'Afghanistan. Rien qu'à entendre ce nom, un frisson hérisse le poil démocratique des Occidentaux. Difficile en effet de ne pas cacher son air de dégoût insécuritaire. Certains n'hésitent d'ailleurs pas à afficher cette mine lassée du « à quoi bon en parler, tout est foutu ». Marqué depuis bien plus longtemps par le sceau de la guerre inextricable que des pays plus d'actualité comme l'insauvable Irak ou la damnée Syrie, l'Afghanistan est le terrain de tous les fantasmes des scénaristes hollywoodiens pour permettre à quelques acteurs clinquants de traverser l'enfer. Il est en effet aisé de s'imaginer toutes sortes de trafics indicibles et d'aventures dantesques dans les sombres allées de Kaboul, dans ce pays où le mot « paix » est un concept aussi abstrait qu'une année sans attentat suicide. Mais dans quel esprit tordu et d'un cynisme effroyable est née l'idée de bafouer toutes les règles que l'humanité a réussi à bâtir au prix de millions et millions de morts, de pertes mémorielles cuisantes et de plaies à jamais à vif dans l'esprit des survivants? Est-ce parce que l'écho d'une troisième guerre mondiale semble de plus en plus audible que l'on s'autorise à annihiler l'essence même du droit international, les conventions de Genève? Pas besoin d'être juriste pour comprendre qu'il y a là un sérieux problème d'hypocrisie généralisée. Pas étonnant non plus qu'on puisse songer sans avoir envie de vomir à négocier avec le boucher de Damas. On trinque bien à la Maison Blanche en écoutant Jay-Z, tandis que meurent sous les bombes à Kunduz 12 membres de MSF, 7 patients dont 3 enfants. Sur le site de MSF, au lendemain de l'attaque, on trouve le témoignage de Lazos Zoltanjex, infirmier à l'hôpital chirurgical de Kunduz, témoin des bombardements que même les Nations Unies veulent qualifier de crimes de guerre. Il raconte à l'unité des soins intensifs, 6 patients étaient en train de brûler vifs sur leur lit. Je n'en dirai pas plus, je n'en lirai pas plus, je me demande juste... Pourquoi ce silence? Comment expliquer l'absence totale de compassion du pays natal de MSF, de la nation qui se targue d'être un bon paternel droit de l'homiste, cette très chère France? Seul un mémo expéditif du Quai d'Orsay lance une bouteille à la mer en espérant, je cite, « que toute la lumière soit faite sur ce drame ». Comment expliquer l'absence de réaction totale de l'Élysée? Et qu'en est-il alors de tous ces entrepreneurs politiques qui aiment tellement donner leur avis sur tout? Pourquoi ne sont-ils pas allés, cette fois encore, refaire leur bronzage égotique devant les minettes des caméras? J'ai posé la question à Ronnie Broman, l'une des grandes figures de MSF qu'il a dirigée dans les années 80-90.
Je suis choqué, je trouve que c'est faire preuve d'une faiblesse que je suis sûr on ne constaterait pas si c'était une autre puissance que la puissance américaine qui était à l'origine de ces faits. Donc je suis vraiment très choqué. Dans toute l'histoire de Médecins Sans Frontières, qui s'étale maintenant sur plus de 40 ans, et du mouvement humanitaire dans son ensemble, c'est l'événement le plus grave qui se soit jamais produit. Jamais un hôpital n'a été pilonné avec une telle intensité, dans la répétition, et avec un tel bilan humain. Imaginons que ce soit Kadhafi qui ait bombardé un hôpital de Médecins Sans Frontières pendant la guerre, ce qui était tout à fait envisageable, bien sûr. Vous imaginez le concert d'indignation, de condamnation, de dignité outragée auquel on aurait assisté. Ici, le calme plat, je trouve que c'est vraiment pas à l'honneur de la classe politique française en général, ni du gouvernement en particulier.
Chronique décalée et reportage de Lauriane Toulemont pour l'instant 2 où nous sommes avec Ali Hamdam, notre invité du mois d'octobre. Ali, quand vous entendez tout ça, qu'est-ce que ça vous évoque?
Ben effectivement, c'est désastreux. Les hommes, les médecins sont là pour soigner et non pas donc participer à une guerre pro ou anti adversaire, hein, mais on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour soigner, tout simplement, aussi bien les rebelles que les protagonistes ou les ceux qui sont sur le terrain, quoi. Mmh. Et je comprends que la personne qui vient de parler soit un peu, effectivement, choquée, quoi.
Tout patient est égal?
Ah, tout patient est égal, hein. Nous l'avons quasiment.
Il n'y a pas de distinction de race, de classe,
absolument
d'âge,
pas.
De sexe. Il ne faut
absolument
pas qu'il y en ait. Il y en a aujourd'hui. Il y en a aujourd'hui.
De discrimination,
oui.
De discrimination,
c'est... Pour vous, c'est une valeur
inaliénable. Inaliénable. D'ailleurs, on a été confronté à ce genre de problème en Casamance, au sud du Sénégal.
Ouais.
Et depuis 30 ans, vous savez que la Casamance est en rebelle contre l'État sénégalais. Et puis dans nos actions médicales, dans les postes de santé dans lesquels on y était, ben, on avait des rebelles comme la population locale, normale. Quoi.
Quand on entend dans cette chronique de Lauriane, pourquoi ce silence de la France, cet État plein de valeurs que vous défendez aussi, est-ce que c'est une phrase qui vous a poussé aussi à faire partie de l'aventure de l'association humanitaire que vous avez montée au Sénégal en 2007
Silence-là,
pourquoi silence. Est-ce que ça vous révolte, ce silence de ne pas parler de ce qui se passe
sur le terrain?
Ouais. Des médecins à l'étranger ici?
Oui, absolument, parce que effectivement, si, comme la personne qui vient de parler disait que si ça avait été Kadhafi qui avait bombardé, ça aurait été le monde entier qui se lève. Là, les Américains, première puissance au monde, effectivement, première démocratie aussi au monde, et on se pose pas trop de questions, on se dit que c'est une bavure. Mais voilà, le problème est de savoir si réellement c'était une bavure ou pas, quoi.
Donc ça vous révolte?
Ça me révolte, que ce soit une bavure ou pas une bavure d'ailleurs, hein, bien entendu.
C'est pour ça du coup que vous retournez très fréquemment au Sénégal aussi, pour faire quelque chose et pour agir sur place.
Pour agir et pour donner un peu de vie à des personnes qui n'ont rien. Le rien chez eux, c'est plus qu'une pauvreté. Vous savez,
quand... Mais vous disiez que c'était une richesse aussi.
C'est une richesse parce qu'ils n'ont rien. Et derrière la pauvreté, c'est leur grande richesse. Mais quand on leur apporte des soins, c'est pas eux qui nous demandent d'y aller, c'est nous qui sommes allés. Et puis, quand on arrive et qu'on soigne des angines, tout simplement, chez les enfants, mais c'est un miracle pour eux. C'est un miracle. Et moi, donc, je suis vraiment pourvoyeur de, effectivement, non seulement de prodiguer des soins, mais de créer avec nos amis sénégalais des projets ensemble, dans lesquels on peut faire travailler ensemble et leur donner les possibilités, les moyens techniques de pouvoir gérer la santé au Sénégal.
Un miracle, c'est fort comme mot, c'est un miracle. C'est ça qui vous touche et qui vous fait tenir dans ce projet qui prend du temps en plus de votre travail de médecin?
Mais bien entendu, vous savez, on a été dans un village qui s'appelle Sindian. Ce village, il y a plus de 2000 personnes. Et ces personnes n'ont jamais vu de médecin et d'infirmier depuis plus de 25 ans. 25 ans, la moyenne d'âge de survie est de 48 ans. On n'est pas là pour transformer le monde, bien entendu. Mais moi, grâce à mon métier, je peux faire des choses. Et mes amis m'accompagnent, on fait des choses extraordinaires. Quand on voit immédiatement la guérison qui est sur place, et c'est pas des guérisons psychologiques et mentales, et Dieu sait qu'il y en a, mais ce sont des guérisons réelles. Dans la minute, dans les heures qui suivent, on voit un neuropalu qui se transforme en une guérison. Eh bien nous, ça, c'est notre métier et on sait faire.
كيف هيدا وكيف ملايينه وما مرة شايفينه عرقان مش صحيح إلا وغلا
شو هالأيام اللي
إلا وغلا شاطت لحالة
عهيدانك فيه وهيدانك فيه حلوة دي حلوة دي حلوة دي تعجل في الفجرية
الغني من تلقاء نفسه حابب يوزع ورق المال منه بخيل أبدا على عكسه تذكركن يا ولاد للحلال
ليل يا لال ليل يا لال ليل يا لال ليل
كل واحد منا عنده ستيلو ما بيمنع انه يصير تنسيق جيب لي لمضي لك قلمي ستيلو كل الشعوب بكرة حتفيق يا سلام
يا سلام يا سلام سلم شو هالأيام
سلم
قال انه غادي عم يعطي فقير كانه المصاري
عشرة
dans l'instant 2 du mois d'octobre automnal mais toujours exotique hein, avec Aliam Dam notre invité. Dites donc Ali, vous me parlez de ce morceau, déjà vous allez le prononcer vous-même hein, parce que je
Chou Aliam en arabe, ouais. Ça veut dire en français littéralement, quelle est cette époque que nous traversons?
Qui chante?
Alors le chanteur s'appelle Riyad Rahbani.
Ah, d'accord.
C'est le fils d'une grande chanteuse du Moyen-Orient qui est connue, qui est libanaise, qui s'appelle Fayrouz.
Qu'on aurait pu diffuser dans cette émission, bien sûr. Mais bon, pourquoi pas? On va voir. Hein.
La prochaine fois.
Bah oui. Et qu'est-ce qu'il dit alors de cette époque, ce chanteur?
Alors là, c'est une ironie, ouais. Qu'il apporte à tous ces pays émergents et qui ont les petits bourgeois, on va dire, entre guillemets, ouais. Dans ces pays émergents et qui ont tellement d'argent et qui ne savent pas en faire et qui, de temps à autre, donnent de l'argent aux petits gens, ouais. Qui, eux, se demandent comment se fait-il qu'ils gagnent autant d'argent et leur posent justement ces petits gens ou demandent à ces grandes personnes comment faites-vous pour avoir autant d'argent. Et bien ceux-là leur répondent par la transpiration, par la sueur du travail. En réalité, ils n'ont jamais sué dans leur front. C'est toute la question qui se pose dans ces paroles de chanson.
C'est intéressant ça, la transpiration, la notion de l'effort pour arriver à ce que vous êtes aujourd'hui, parce qu'on n'a pas parlé de vos spécialités, mais vous en avez beaucoup en tant que médecin. Il y a eu de la sueur,
oui,
il y a eu de la transpiration.
Il n'y a pas eu de transpiration, il y a eu plutôt les neurones qui ont travaillé et voilà. Donc,
vous avez passé plus de 10 ans en Franche-Comté.
J'ai passé plus.
Comment vous êtes retrouvé là-bas, Ali? Mais,
écoutez, c'est peut-être mes origines qui parlent. Vous savez que les Libanais et les Phéniciens, au départ, ça fait depuis 3000 ans qui arpentent les grands continents. Et puis, moi, c'est l'opportunité de voyager et de connaître sans arrêt, de connaître et d'apprendre surtout. D'apprendre, puisque l'insouciance, comme disait Khalil Gibran, qui est un autre Libanais, est le berceau du néant. Et apprendre est la moindre de choses, à tous les niveaux. Hein, je ne parle pas de la médecine, mais chez une personne qui soit boucher, charcutier, qui fasse son travail comme il faut, et qu'il apprenne sans arrêt. Quoi. Là,
vous n'arrêtez jamais d'apprendre, en fait,
ben,
Ali.
Ben jusqu'à peut-être, je pense que c'est un bien-être. Hein, c'est pas pour le faire remarquer, mais c'est un bien-être. Apprendre, arpenter, travailler avec son prochain est une nécessité pour le bien-être de la personne.
Parlez-moi de lui.
Instant.
Comme si c'était la première fois.
Oui, et toi? Tu parles un peu français?
Il s'appelle Yafa. À côté du banc sur lequel on est assis, deux gamins observent une souris courir dans les feuilles. Elle fait un surprenant raffut. Sur les marches en face, quelques hommes. Ils partagent des sandwichs, non loin des bribes de leur vie matérielle qui tiennent dans un sac à dos. À cette heure matinale de la journée, la fontaine est prise d'assaut. Et celui qui est en train de faire sa toilette sous le jet irrégulier prend grand soin de ne pas mouiller ses chaussures. Au milieu, les joueurs de ping-pong sont arrivés et commencent une partie, sans se soucier des jardiniers, qui ramassent les cadavres de bière et échangent les poubelles. Un homme à l'écart étend son linge mouillé sur un ruban de protection de chantier qui est attaché aux grilles du square. Un square à Paris où je viens souvent depuis 4 ans. Ceux que je rencontre ici sont de passage.
I don't understand. It's about my face, I know. He sounds the same. I'm not Arabic, no. I look like Arabic girl, but I'm not.
Yaffa pense que je suis arabe. Yaffa ne parle pas français. Mon anglais comme le sien est approximatif. Un homme assis à ses côtés s'improvise interprète. Je comprends que Yaffa vient du Darfour. Il est en France depuis 8 mois et en ce moment il dort dans ce square avec 80 autres migrants.
Ah, it's an association Saint-Denis. Ah, you're an athlete. Oh, okay.
Yaffa sort un papier de son portefeuille. Je pense que c'est un document de la préfecture ou de l'OFPRA, l'Office de protection des réfugiés et apatrides, où son dossier actuellement est en cours d'instruction. Mais c'est un papier de l'Université Saint-Denis. Il est écrit qu'il est marathonien. En ce moment, il ne s'entraîne plus. Il attend ses papiers. Ce qu'il veut, ce dont il rêve, c'est de devenir un champion, ici.
Une création sonore reportée, signée Edwige Moreau pour l'Instant 2.
L'Instant 2
sur Radio Grenouille.
Dans un contexte aujourd'hui actuel des réfugiés qui est compliqué, oui. Pour vous aussi j'imagine que ça doit vous toucher.
Alors moi, vous vous adressez à quelqu'un d'émigré à plusieurs reprises, donc les migrants, là, le problème actuel qui se pose effectivement est un désastre pour la région du Moyen-Orient. Je pense que vous savez, le Liban, il a 5 millions d'habitants, il a recruté plus de 1 200 000 Syriens, soit plus de 30% de sa population. Personne n'en parle. La France, il était décidé d'en recevoir 25 000 à 30 000 sur une population de 68 millions, 70 millions. C'est vraiment une goutte d'eau, quoi. Et puis, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les gens qui viennent en Europe, les migrants, c'est généralement des gens moyennement fortunés. On ne traverse pas comme ça des espaces sans avoir un sou dans la poche. Et donc, et généralement, ce sont des intellectuels qui viennent, des médecins, des ingénieurs, mais pas simplement, c'est vrai. La plupart des gens sont... Mais le support se fait par famille. Et donc, toutes ces exodes familiaux se font grâce à un soutien derrière.
Comme vous, en fait, quand vous êtes venu retrouver votre oncle.
Ben voilà, tout à fait. Mais moi, j'ai pris simplement le billet d'avion en toute légalité. Hein, je suis rentré en France en toute légalité parce que j'ai la chance d'être aussi de nationalité française. Je l'ai eu du fait des accords qu'il y avait à l'époque avant l'indépendance au Sénégal. Donc, on avait la possibilité d'être français. Et donc, j'ai eu cette chance. Mais je pense aux gens qui n'ont pas cette chance et qui ont...
Vous dites quoi, là, quand vous pensez à eux?
Mais c'est des gens qui sont animés d'une grande volonté de pouvoir simplement se suffire à eux-mêmes et de pouvoir travailler. C'est pas des mendiants, c'est des gens qui cherchent à travailler. Je pense que la France elle-même est un assemblage, Marseille, on est peut-être la première ville et Paris aussi, un assemblage de personnes différentes mais qui apportent leur soutien et le développement du pays. Les Italiens sont bienvenus il y a 50-70 ans à Marseille. Les Espagnols sont bienvenus du côté de la région de Toulouse. Donc, on n'a pas à, effectivement à parler
d'invasion.
On est tous des étrangers qui vivent en France avec des cultures différentes.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.
Vous allez rencontrer quelqu'un.
Une nouvelle chroniqueuse, tiens, dont la voix ne vous est pas étrangère. Justement, vous qui nous écoutez dans l'instant 2, a rejoint l'équipage du navire de l'émission en tant que moussaillon régulier. Du haut de sa plume et de ses nombreuses personnalités, là-haut dans le ciboulot, vous la retrouverez tous les mois dans la peau d'un ou d'une autre, tranche de vie, vie tranchée, vie d'ici, vie d'ailleurs, toute pourrie, toute ratée. Mais qui sommes-nous, finalement ?
Qui est-ce ? Qui est là ? Qui suis-je ?
Bonjour, Julia Rondon. Vous êtes qui, aujourd'hui ?
Aujourd'hui, Mélanie, je suis une ratée. Oui, car voilà une chronique pour mettre en lumière ceux qui ratent les choses, qui échouent, qui se vautrent lamentablement, qui font, et j'insiste, de manière constante les mauvais choix et prennent des décisions lamentables. Il y en a marre de tous ceux qui réussissent, il y en a ras-le-bol de ceux qui, à force d'abnégation, de courage, de persistance, arrivent au sommet de la montagne, en haut de l'affiche ou sur la première place du podium à nous faire coucou de la main. Ils nous emmerdent les premiers de la classe, ils me fatiguent. Alors voilà une chronique pour raconter les ratés. Et quand je dis ça, vous vous dites « mouais, bof ». Mais je vais prendre un exemple, le mien. Au début de l'année, je me suis dit que j'allais faire du sport. D'abord, ça me ferait du bien, et puis surtout, ça me permettrait de coller à l'image que la société attend de moi. Car qu'est-ce qu'elle attend, la société de moi, une jeune femme de presque 30 ans ? De l'intelligence ? De l'esprit, de l'impertinence, de la spiritualité ? Non, non, la société, ce qu'elle attend de moi, c'est un cul rebondi et une paire de cuisses fuselées. Du coup, j'ai hésité entre faire de l'aïkido ou du pilates. Et après réflexion, je me suis dit que l'aïkido serait trop agressif. Et ça, la société, elle n'aime pas trop. Une femme, c'est fragile, c'est sensible, c'est malléable, mais c'est pas agressif, non. J'ai donc choisi de faire du pilates. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée un mardi soir à faire du pilates dans une salle de gymnastique. Au début de la séance, la prof nous a demandé de rester debout en inspirant et en expirant. En respirant, quoi. Et là, j'ai pensé fastoche. Un peu à la manière des premiers de la classe qui, en regardant l'exercice de maths, soufflent « Ah ouais, c'est trop facile !» Et quand tu leur dis « Excuse-moi, je comprends pas, tu peux m'aider ?» Ils commencent invariablement le début de leur phrase par « Non mais attends, je comprends pas que tu comprennes pas, c'est super facile pourtant !» Bon, au cours de la séance, cela dit, les choses se sont un peu corsées. La prof a dit « Prenez le petit boudin en mousse. » J'ai pris le petit boudin en mousse. « Allongez-vous dessus. » Je me suis allongée. Elle nous a alors demandé de lever les jambes en l'air. Mon équilibre était devenu précaire, mais je résistais. Puis, elle nous a demandé de lever les bras en équerre tout en maintenant les jambes en l'air. Et là, alors que je me concentrais pour ne pas chavirer au-dessus du petit boudin, la prof a commencé à nous expliquer qu'il fallait contracter le périnée, mais relâcher le sacrum, ouvrir le sternum, détendre les adducteurs et relâcher les omoplates, mais rester concentré sur votre transverse. On ne rigole pas, sinon ça déséquilibre le grand transverse. Vous tirez la tête vers le haut, mais vous retournez le lobe d'oreille, vos narines sont en inversé, vous roulez des yeux, vous ne passez pas par la case départ, vous ne touchez pas 20 000 euros et vous allez directement en prison. Je me suis sentie perdue. La prof a dû le sentir parce qu'elle est venue vers moi et m'a dit « Tu sens la table basse sur tes jambes, le plafond qui tombe sur tes genoux ?» Moi, j'aurais volontiers répondu « Pas vraiment !» mais je me suis contentée de hocher la tête et de dire « Oui, oui !» tout en contractant le périnée et en relâchant le sacrum. Bien sûr, elle nous a fait changer de position plusieurs fois et je ne parlerai pas de ce moment fort gênant où j'avais les jambes demi-pliées en l'air pendant que tout le monde les avait droites comme un i et où il a fallu faire un basculement rétroverse en maintenant le grand droit dans l'axe. Là, perso, moi, j'ai fait une roulade arrière et je crois que c'était pas si mal. Et en sortant du cours, je réfléchissais quand un mec relou m'a abordé. Et à ce moment-là, je me suis dit que franchement, j'aurais mieux fait de faire de l'aïkido. J'aurais pu lui faire une bonne prise, ce qui est, vous en conviendrez, toujours plus utile que de lui dire « Excuse-moi, vas-y, mais contracte ton périnée, mais ouvre ton plexus, tu détends tes lombaires intermédiaires et tu relâches ton sacrum. Est-ce que tu sens ton grand oblique, là ?» Et à cette question, « Est-ce que tu sens ton grand oblique, là ?» Il m'a répondu « Ouais, madame, mais mon grand oblique, c'est toi qui vas bientôt sentir. » Et là, je me suis dit que le pilate, c'était raté.
Oui, c'était raté. Merci Julia Rondon pour cette chronique. Qui est-ce ? Qui êtes-vous ? Qui sommes-nous ? Dites donc, le pilate, c'est hyper à la mode, Alia Mdam. Hein, c'est ce diktat de la santé, du corps parfait, fuselé, de la femme parfaite qui arrive à se retourner dans tous les sens, si j'ose l'expression.
Oui, on est dans une société où on demande à la personne de faire toujours mieux, ouais. De courir. Alors, en fois, effectivement...
C'est énervant, hein ?
C'est énervant, bien entendu. On demande aux gens de faire du sport, et bien tout le monde court. On voit partout les gens courir sur les corniches et tout ça. Et on se rend pas compte. Mais si on demande aux gens pourquoi vous courez, vous dites c'est parce que c'est on m'a dit de courir et c'est bon pour la santé.
Mais c'est votre faute, vous qui êtes médecin du sport, vous dites aux gens de courir.
Voilà. Non, d'abord je leur dis de marcher parce qu'on marche plus beaucoup.
C'est mieux déjà.
On utilise souvent les véhicules pour aller faire 200 mètres. Ouais. Et il y a des choses à faire d'abord. Et donc marcher est une activité physique. qui est une activité normale, marcher vite, et voilà. Donc courir, les gens ne savent pas pourquoi ils courent.
Courir après quoi, Liam Dam?
Mais moi je pense qu'ils courent après le temps.
Mais vous courez après quoi, vous?
Moi je suis pas très grand sportif, effectivement, mais je fais attention.
Courez après le temps, vous aussi?
Ben,
Avec tous vos projets, je
cours après le temps et peut-être c'est le temps qui court après moi, je dirais exactement, parce que je vais effectivement très vite.
Trop vite?
Trop vite, oui, mais bon, ben, je travaille quand même, je m'attelle à mon activité principale qui est celle de médecin praticien et j'ai 10 heures par jour,
ce qui fait quand même
ça
beaucoup.
Ça fait quand même beaucoup.
Ça, c'est un lapsus très révélateur, Ali. Il n'y a pas que la médecine dans la vie, non?
Ah, mais il n'y a pas que la médecine dans la vie,
il y a
l'amour. Il y a l'amour.
Ah.
Mais tout se rejoint, vous savez.
Ah bon?
Ben oui. Puisque la cardiologie, c'est, comme je disais au départ, c'est pas simplement des problèmes cardiaques, mais c'est des problèmes de cœur. Et l'amour fait partie.
Vous êtes amoureux, Ali?
Ah, moi, je suis amoureux. Je suis amoureux, je reste amoureux. Je suis amoureux, la première dame à qui je dois rendre hommage, c'est bien ma femme aussi, pour laquelle j'ai beaucoup de compassion et d'amour, les deux en même temps. Elle travaille avec moi. Elle n'est pas médecin et elle me subordonne dans mes actions sanitaires. Elle sait faire de la médecine. Elle a fini par apprendre à faire de la médecine, mais aussi elle a aussi un côté qui est très généreux de la manière dont elle représente.
Derrière chaque grand homme, il y a une femme, non?
Mais aussi derrière une femme, il peut y avoir un homme, hein, moi je dirais.
Alors, si tout va bien, c'est parfait. Merci Ali Hamdan de nous avoir fait voyager en oubliant les frontières du Liban, du Sénégal, de la France, qu'elles soient géographiques, humaines, genrées, tiens, sexuelles, raciales, on s'en fiche de tout ça finalement. Hein, on s'en fiche ou pas?
Ben oui, on s'en fiche, mais la vie, elle est courte.
Ouais.
Et il faut vraiment, vraiment, vraiment vivre avec son temps, quoi. Et aimer son prochain.
Et puis laisser transpirer tout ça. On est d'accord?
Tout à fait.
Que tout soit pour eux. Je vous vois avec un petit papier.
Oui, mais je voulais juste finir.
Allez-y.
Parce que, vous savez, le Libanais est quelqu'un qui... C'est là, le Liban est un pays, l'art de vivre. C'est ça, hein, c'est son repère, c'est ses caractéristiques. Et on dit généralement, et il y a un proverbe libanais qui dit que la vie se termine avant que le travail ne s'achève. Et j'ai pensé à un grand poète, Khalil Gibran, qui est un poète libanais, et qui, juste avant l'agonie, le mourant et le vautour, c'est son poème, sa poésie, son poème, et dans lequel il s'adresse à un vautour, et lui, il agonise, quoi. Et il s'adresse au vautour. Il lui demande, attends mon ami, attends encore un peu, réserve ton impatience, je ne céderai pas de sitôt mon corps usé à ta noble fin. Seul le bruit du silence marquera l'espoir de vie et de fin. Attends mon ami, attends encore un peu. J'abuse de ta patience, car la volonté de vivre est bien plus forte de tout ce qu'il y a de plus fort, et la volonté de mourir est bien plus faible de tout ce qu'il y a de plus faible. Pardonne-moi, mon ami, de trop m'attarder. C'est la souvenance qui retient mes pensées, le souvenir des jours lointains. La vision d'une jeunesse épanouie, les prunelles d'un visage qui supplie mes paupières de ne point se fermer, sa voix qui murmure dans mes oreilles et sa main qui empoigne la mienne. Approche, mon ami, affamé, la table est servie, le frugal et le fade sont offerts avec amour. Viens, plonge ici, du côté gauche et arrache de sa cage cet oisillon qui ne peut plus battre de l'aile. Oh, combien j'aimerais qu'il soit élancé avec toi vers le ciel. Viens vite, mon ami, ce soir, je suis ton hôte et toi, mon invité d'honneur.
Et tout ça sans papier.
Et tout ça sans papier.
Juste avec la tête. Merci, Ali Hamdam. J'ai même plus
Merci,
besoin de
Mélanie.
Conclure cette émission.
Merci à vous.
Parce que la conclusion est juste là et magnifique. Merci à Sébastien, à la réalisation de cette émission. Merci à Lauriane Toulemont, Julia Rondon. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur Radio Grenouille. Et puis on va laisser tout simplement la musique terminée et l'oralité qui est la base de la radio et de la rencontre. Merci beaucoup.
Merci Mélanie. Merci à vous. Et à bientôt.
À bientôt. Moi, je vous dis au mois prochain pour une nouvelle émission de l'Instant 2.
L'instant 2 sur Radio Grenouille.